Donald Trump va-t-il se faire plus discret sur le dossier iranien? J'ai presque envie de dire Donald Trump va-t-il vraiment se faire plus discret sur le dossier iranien, parce que il alterne le chaud et le froid, vous le savez, c'est sa marque de fabrique. Et vous êtes unanime, hein, pour 73 d'entre vous, % d'entre vous sur WhatsApp, c'est oui, 61% également de oui sur Insta, 62% sur Facebook et 60% toujours de oui sur X. On va voir si notre invité partage cet avis. Il s'agit ce matin, et on le remercie d'être avec nous, David Rigoulet-Rose, docteur en sciences politiques et chercheur rattaché à l'Institut français d'analyse stratégique, qui est à votre micro, Lise.
David Rigoulet-Rose, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Alors, on avait posé cette question du jour parce que il y avait eu plusieurs articles, David, qui disaient que Donald Trump allait cesser à la fois les négociations et les frappes sans faire plus de bruit. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous pensez qu'il va aller vers cette voie-là?
En tout cas, c'est l'attitude qu'il semble avoir adoptée, ce qui est effectivement plutôt inédit. C'est pas franchement dans son logiciel, mais c'est relayé par le site Axios, le 9 août dernier, où il aurait dit, et donc il a effectivement formulé la chose suivante: nous jouons désormais un profil bas pour laisser la pression économique faire son effet. Il faut rappeler qu'il avait unilatéralement et suspendu une opération majeure qui aurait dû être conjointement menée d'ailleurs avec Israël pour un certain nombre de raisons complexes. Mais en tout cas, il aurait adopté cette position aujourd'hui en disant même: nous ne négocions avec eux qu'à moitié, ce qui peut paraître curieux comme formulation. En revanche, la suite l'est moins. Nous contentons d'observer. L'Iran a une inflation énorme, n'a plus d'argent, dans une très mauvaise situation économique et n'a plus de moyens de payer ses soldats. Il finissait en disant: ça va s'arranger, ça finit toujours par s'arranger, c'est une partie d'échec. Pour un joueur de poker, c'est singulier. Et d'ailleurs, il y a eu un commentaire de la partie iranienne en mentionnant le fait que eux, les Iraniens, étaient des joueurs d'échecs professionnels. Il faut rappeler que c'est à l'Iran qu'on attribue l'invention du jeu de l'échec, le shadrang. Donc, on voit bien qu'il y a une temporisation, effectivement. Donald Trump a intégré une temporalité qui s'étire, ce qui n'était pas, évidemment, son logiciel de départ.
Alors, ce qui est quand même compliqué, David Rigoulet-Rose, c'est que à la fois, Donald Trump dit souvent tout et son contraire à d'autres à quelques jours d'intervalle, mais il n'y a pas que lui. Par exemple, là, on a le ministre pakistanais de l'Intérieur qui a rencontré hier le ministre iranien des Affaires étrangères et qui s'est dit tout à fait optimiste sur le fait que les États-Unis et l'Iran allaient être proches d'une forme d'arrangement. L'Iran qui dit « nous détenons le détroit d'Ormuz » et Donald Trump qui dit « non, non, ils n'ont aucun contrôle, c'est nous qui le contrôlons ». C'est quand même compliqué de savoir qui a tort et qui a raison là-dedans.
Oui, alors c'est ce qu'on appelle traditionnellement le brouillard de la guerre. Ça vaut pour la communication comme pour les opérations militaires. En matière de déclarations contradictoires, effectivement, on voit que les unes se succèdent aux autres. Donald Trump, d'ailleurs, fait valoir que la partie iranienne ment régulièrement en niant des négociations alors même qu'elles seraient menées en coulisses. Tout est possible, effectivement. Chacun utilise, il y a une stratégie de communication à la fois pour l'interne, pour son opinion interne, ça vaut pour l'Iran comme pour les États-Unis, et puis pour la communauté internationale, parce qu'en toile de fond, il y a la question du prix du baril, qui est aujourd'hui aussi autour de 80 dollars. Il a remonté, évidemment, compte tenu de l'obstruction qui prévaut au niveau du détroit d'Ormuz. Il y a une forme de déni d'accès. On pourrait dire ça en termes économiques, qui est double d'ailleurs de la part des Iraniens, mais surtout des Américains, puisque ça rentre dans la logique d'economic flurry, c'est-à-dire la pression économique maximale. Il n'y a plus de pétrole iranien qui sort effectivement de l'île de Karg, et donc c'est un assèchement des liquidités. C'est pour ça que Donald Trump fait référence à la crise économique comme finalement substitut à l'opération militaire qui avait été envisagée.
Alors justement, David Rigoulet-Rose, il y avait une news qui aurait pu passer inaperçue, mais qui du coup, dans ce contexte, est plus importante. C'est l'Iran qui affirmait qu'elle allait être sur le point d'intégrer la banque des BRICS et que donc, peut-être, ça allait lui permettre justement, en rejoignant cette banque, d'accéder à des nouveaux financements et de contourner les sanctions américaines et occidentales.
Oui, mais ça aussi, c'est une logique d'affichage. Parce que de toute façon, concernant les BRICS, hein, on peut penser au Brésil ou d'autres, c'est-à-dire qu'il y a un pari sur le sud global fait par l'Iran par rapport aux États, à la politique américaine, occidentale en général et américaine en particulier. C'est pour évidemment trouver une solution de contournement, notamment l'assèchement des liquidités. Mais c'est peu probable que ça soit efficient de manière décisive. Aujourd'hui, la monnaie iranienne est en voie d'effondrement. Il y a une hyperinflation. Il faut 1,9 rial pour 1 dollar. C'est un record. Donc, il y a même une logique de stagflation sous-jacente, hein, avec une hyperinflation et une baisse de la croissance. Et pour contourner ces difficultés, en réalité, les Iraniens se tournent vers les crypto-monnaies. Mais là aussi, la pression américaine se fait de plus en plus forte, puisque les plateformes de crypto-monnaies sont visées tout spécialement depuis 3 mois par Scott Bessent, le secrétaire au Trésor, qui est en réalité le vrai ministre de la guerre, beaucoup plus que Pitexet d'une certaine manière, puisque c'est lui qui maintient une pression. La question est jusqu'à quand l'Iran peut tenir dans ces conditions, parce qu'on a vu qu'il y avait une grande résilience effectivement du régime iranien. Qui ne voit pas les souffrances de sa propre population, c'est pas son critère, évidemment. Et donc c'est dans cette ambiguïté, dans cette incertitude qu'évidemment se joue l'essentiel du devenir de la situation actuelle.
Alors, on a aussi une logique de miroir, hein, David Rigoulet-Rose. L'Iran demandait des réparations américaines, justement, et de l'argent. Et là, c'est Donald Trump, cette semaine, qui réclamait de son côté des indemnités à l'Iran pour les dégâts causés depuis 50 ans, par le pays et pour les manifestants qui ont été tués, etc. Est-ce que, il va tenir ça, à votre avis, Donald Trump?
Oui, alors, il y a une forme de jeu, hein. Pourtant les choses sont sérieuses, mais c'est un peu la réponse du berger à la bergère. Dans les deux cas, c'est de toute façon ça, il y a une dimension surréaliste. Du côté iranien, c'est des réclamations maximalistes, une forme d'ultimatum qui de toute façon sera irrecevable pour les États-Unis. Et puis du côté américain, ça n'est pas davantage recevable, effectivement, de demander des dédommagements. Et Donald Trump faisait référence d'ailleurs aux victimes de l'USS Cole en 2000, qui avait effectivement causé la mort de plusieurs Américains. Et puis effectivement, il y a une comptabilité finalement assez tragique par rapport à des événements sur les 40 dernières années. On ne peut pas comptabiliser de cette manière. Mais en tout cas, ça montre qu'il y a effectivement un jeu de communication en miroir, comme vous évoquez, qui d'ailleurs se retrouve sur d'autres aspects. Et je parlais du déni d'accès. Il y a un effet miroir entre l'occlusion par l'Iran et puis le contre-blocus américain. Il y a un effet miroir dans le cas des opérations militaires, puisque à chaque frappe de l'un répondait une frappe de l'autre. Supposé être proportionné. Donc il y a effectivement cette dimension d'effet miroir permanente.
Alors, je voulais qu'on revienne aussi, David Rigoulet-Rose, sur cet attentat avorté. Donald Trump a exfiltré secrètement d'Air Force One à son départ du sommet de l'OTAN en Turquie en juillet dernier. Ça fait la une des journaux américains. Visiblement, ce seraient les services secrets israéliens également qui auraient rencardé les États-Unis sur ce danger sécuritaire. Est-ce que l'Iran a aujourd'hui les moyens d'assassiner Donald Trump?
Ah bah en tout cas, c'est un objectif déclaré. Donc de ce point de vue-là, il y a pas d'ambiguïté de la part de Téhéran, hein. Il s'agit de venger la mort d'Ali Khamenei
Bien sûr.
et d'une grande partie donc lors de la frappe de décapitation du 28 février dernier. Donc le projet, effectivement, ça fait consensus. Alors pour le coup, il y a des divisions au sommet de l'État du régime iranien, mais pas sur cet objectif. Qui est considéré comme un devoir, d'une certaine manière. Donc les menaces sont prises très très au sérieux. De toute façon, elles existent déjà pour Donald Trump, hein, en dehors de la problématique iranienne. On a vu qu'il y a eu des tentatives d'assassinat. On s'est interrogé d'ailleurs sur les commanditaires pour certaines d'entre elles. Là, en l'occurrence, c'était très sérieux. Vous évoquez une source. Alors, on a parlé effectivement d'un renseignement israélien, mais en réalité, il y avait aussi vraisemblablement une source d'un service occidental. Très, très circonstancié. La preuve en est, c'est que malgré le fait que Donald Trump est souvent difficile à gérer, hein, pour ses déplacements, le Secret Service lui a imposé effectivement ce qui relève quasiment d'un scénario de films d'espionnage. Hein. Effectivement, on a appris il était rentré dans l'avion, l'Air Force One classique. Il était exfiltré pour un autre avion pour l'envoyer en Angleterre et prendre le nouveau Air Force One pour rentrer aux États-Unis. Donc oui, il y avait certainement en Iran, en Irak, en Turquie, la possibilité d'un commando. Avec des manpads pour éventuellement viser l'avion présidentiel qui est supposé avoir des contre-mesures électroniques. Mais enfin, évidemment, le Secret Service n'a pas voulu prendre le moindre risque, ce qui explique effectivement le scénario dont on a des bribes aujourd'hui.
Alors, justement, pour finir là-dessus, David Rigoulet-Rose, ce fameux avion, il a été offert à Donald Trump par le Qatar. Hein, ça a fait suffisamment la une des journaux. Est-ce que on pourrait être paranoïaque et se dire que le Qatar, qui sert d'intermédiaire dans beaucoup de négociations du Moyen-Orient, et en l'occurrence là avec les États-Unis, et pourrait avoir joué un rôle aux côtés de l'Iran dans un attentat contre Donald Trump?
Non, je crois qu'il ne faut pas spéculer outre mesure. L'avion, de toute façon, qui a été offert à Donald Trump, il a été désossé pièce par pièce et remonté, justement pour vérifier qu'il n'y avait pas à l'intérieur un élément suspect et virtuellement dangereux. En revanche, ce qui est avéré, c'est que l'avion n'était pas aux normes sécuritaires comme le vrai Air Force One. En l'occurrence, il n'y a pas de possibilité de ravitaillement en vol, ça se voit sur le nez de l'avion. Il y a des systèmes de leurre qui n'étaient pas intégrés dans l'avion, effectivement, plus confortables, certes, mais pas aux normes sécuritaires requises pour le transport du président américain. Donc, c'est ce qui explique qu'effectivement, a été déplacé en Turquie lors de la réunion de l'OTAN, le vieil, entre guillemets, Air Force One, qui lui était aux normes, puisqu'il remonte aux années Reagan. Mais en l'occurrence, on a vu que ce n'était pas jugé suffisant par le Secret Service, qui a préféré ne pas prendre le moindre risque, parce qu'il y avait manifestement un élément des renseignements assez précis, semble-t-il, qui faisait valoir qu'il pouvait y avoir la présence sur le sol turc. Il faut rappeler que la Turquie est pas loin de, évidemment, de l'Iran. Hein, il y a une frontière. Et il y a des Iraniens en Turquie. Donc, effectivement, il y avait un risque, semble-t-il, sérieux, qui a justifié l'opération en question.
Merci beaucoup, David Rigoulet-Rose, d'avoir été
Merci.
avec nous, docteur en sciences politiques et chercheur rattaché à l'Institut français d'analyse stratégique. Une bonne journée à vous et à bientôt.
Merci, au revoir.